Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le charbon et l'acier pour un voyage à la toute fin du 19e siècle.
Absolument.
Et la source qui nous guide, c'est un article vraiment passionnant, tiré du bulletin numéro 85 du Cartoclub Aveyronnais.
Un document d'une richesse incroyable.
Oui, il retrace la construction d'une ligne de chemin de fer qui, à première vue, pourrait sembler assez modeste. Mais notre mission, c'est de voir comment ces 66 km de rails ont non seulement relié le Tern et l'Aveyron,
ce qui était déjà un exploit,
mais ont surtout, et c'est ça le cœur du sujet, déclenché une véritable révolution pour la ville de Rodez. Il faut vraiment saluer la qualité du travail. L'article est signé Jean-Claude Vidal-Garic.
Et la mise en page de Guy Mazars avec les cartes, les photos d'époque, rend l'histoire incroyablement vivante. On est tout de suite dedans.
Exactement.
Et c'est un point de départ formidable parce que, comme souvent, une histoire de chemin de fer, ben, c'est bien plus qu'une histoire de train.
Ah oui.
C'est le récit d'une ambition d'ingénierie, une ambition presque folle. C'est un défi lancé à une géographie réputée impossible, mais c'est aussi un thriller économique et social qui va redessiner toute une région.
C'est une histoire à échelle humaine, en fait.
Voilà, on va voir comment un projet d'infrastructure, qui sur le papier est purement technique, devient le cœur battant qui va transformer une ville pour des décennies.
C'est parfaitement résumé. Alors pour bien comprendre, repartons à l'origine. On a la Compagnie du Midi, qui à la fin du 19e siècle a une grande ambition, étendre son réseau, pousser ses lignes vers le Massif central.
Un territoire encore très enclavé à l'époque.
Très enclavé. Et la ligne Carmaux-Rodez, c'est une pièce maîtresse de ce puzzle. Sauf que, entre Carmaux et Rodez, il y a un obstacle. Et c'est pas une petite colline.
Non, là on parle d'un véritable monstre géographique. La vallée du Viaur. Profonde, large, un vrai canyon.
Et ce n'est pas un détail, j'imagine.
Ah non, cet obstacle, ça va être le personnage principal de la première partie de cette histoire. Il va absolument tout conditionner. Pour vous donner une idée, les toutes premières études pour franchir cette vallée, elles datent de 1876.
D'accord, 1876.
On pourrait croire que ça va aller vite, mais le projet définitif, lui, n'est approuvé qu'en 1887.
Attendez, 11 ans.
11 ans.
Juste pour décider comment traverser une vallée.
Ça paraît énorme.
C'est énorme, 11 ans de débats, de plans, de contre-projets, de disputes d'ingénieurs. Mais qu'est-ce qui a pu bloquer la situation aussi longtemps ? C'était l'argent, des querelles politiques.
C'est un mélange de tout ça, mais c'est avant tout un défi technique, vertigineux pour l'époque. On ne parle pas de construire un petit pont, là. Il faut s'imaginer un ouvrage qui doit enjamber une brèche de plusieurs centaines de mètres à plus de 100 mètres de haut.
Ah oui, vu comme ça.
Les technologies sont encore balbutiantes. La pierre, beaucoup trop lourde, beaucoup trop chère. Le fer, on commence à peine à maîtriser des structures aussi gigantesques. Donc cet obstacle, il a transformé ce qui aurait dû être un projet de transport assez classique en une véritable épopée d'ingénierie. L'audace, l'innovation, c'était plus une option, c'était la seule solution.
Et cette épopée, elle a son héros, sa star même, le viaduc du Viaur. C'est la pièce maîtresse, l'ouvrage qui focalise toute l'attention.
Totalement.
Pour le choisir, un grand concours national est lancé en 1887. Et c'est la Société de construction des Batignolles qui l'emporte, avec un projet de l'ingénieur Paul Baudin. C'est lui le cerveau.
Voilà.
Mais en lisant l'article, il y a un détail qui m'a vraiment surpris. On imagine que la compagnie de chemin de fer, elle veut le projet le plus moderne possible. Mais en fait, pas du tout. La compagnie du Midi était hyper frileuse.
C'est ça qui est fou.
Elle se méfiait de ces nouveaux grands arcs métalliques. Elle aurait préféré une solution plus classique.
C'est complètement contre-intuitif et c'est là que l'histoire devient fascinante. Ce n'est pas l'entreprise privée qui innove, c'est l'État, l'administration, qui va la pousser dans ses retranchements.
C'est l'État qui impose l'innovation.
Exactement. Les ingénieurs des ponts et chaussées, qui supervisent le projet, vont imposer ce choix d'un grand arc métallique central. Alors pourquoi ? Probablement pour une question de prestige national, pour montrer la maîtrise technologique française.
Une vitrine, en quelque sorte.
Une vitrine, mais aussi parce qu'ils avaient une vision à plus long terme. Ils ont compris que c'était la technologie du futur. C'est un cas d'école où la commande publique ne se contente pas d'acheter un service, mais force un secteur entier à innover.
C'est incroyable. La compagnie qui est censée vendre du progrès était en fait la plus conservatrice.
C'est souvent le cas.
Et donc, la construction démarre. L'article est rempli de photos qui donnent le vertige. On voit cette structure d'acier s'élancer des deux côtés de la vallée entre 1898 et 1902. On imagine le spectacle pour les habitants.
Ah, mais ça devait être quelque chose!
Pendant 4 ans, ils ont vu cette cathédrale de métal grandir au-dessus de leur tête, rivet par rivet. Ça devait être un mélange de fascination et peut-être d'un peu de peur, non?
Absolument. Un chantier pharaonique en plein cœur de l'Aveyron. Et l'article nous donne les dates clés. L'inauguration en grande pompe le 5 octobre 1902, avec ministres et notables, et puis l'ouverture réelle à l'exploitation le 18 décembre.
Et c'est parti.
Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le viaduc du Viaor, aussi spectaculaire soit-il, n'est que la partie la plus visible de l'iceberg.
Ah bon ?
Bah oui. Pour faire passer 66 km de rails dans ce paysage accidenté, il a fallu construire d'autres ouvrages d'art, comme le viaduc de la Gascarie, qui lui est entièrement en pierre, et percer de nombreux tunnels. Le projet dans son ensemble était titanesque.
D'accord. Donc, le grand obstacle est vaincu, la ligne est construite, on s'attend à ce que le train arrive triomphalement au cœur de Rodez. Mais là encore, l'article nous révèle une histoire, un peu plus compliquée.
On peut dire ça, oui.
L'arrivée du train à Rodez, c'est une saga en deux temps. Et le premier acte est assez cocasse. La toute première liaison ferroviaire de la ville, en 1860, n'allait pas jusqu'au centre.
Non, loin de là.
On a construit une gare dite provisoire, à un endroit appelé Canaguet, à 2 kilomètres de la ville.
Et ce provisoire, il a duré un certain temps.
Combien de temps ?
Presque 18 ans.
18 ans. Mais c'est une éternité pour du provisoire.
C'en est une. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le quartier porte le nom de la Vieille Gare. C'est resté.
Mais pourquoi ? Pourquoi 18 ans avec une gare au milieu des champs, ça n'a aucun sens ?
C'est le reflet parfait des complexités de l'époque. D'abord, il y avait d'énormes défis de planification urbaine. Mais le principal blocage, c'était une guerre de compagnie.
Ah, voilà.
Le réseau ferré français n'était pas unifié. C'était un patchwork de concessions privées qui se faisaient concurrence. Et pour Rodez, il fallait réussir à connecter la ligne de la compagnie d'Orléans avec celle de la compagnie du Midi.
Mettre tout le monde d'accord.
Exactement. Mettre d'accord ces deux géants, trouver un terrain d'entente, définir qui paye quoi, qui contrôle quoi. Ça a pris des années de négociations acharnées. La gare définitive de Canac, qui ouvre finalement le 4 mars 1878, n'est pas juste une gare.
C'est un traité de paix.
C'est un traité de paix ferroviaire. Et c'est elle qui deviendra le vrai carrefour de la ville, prête à accueillir des décennies plus tard notre fameuse ligne de Carmo.
D'accord, je comprends beaucoup mieux, ce n'était pas un problème technique, mais bien un problème de politique ferroviaire.
Tout à fait.
Alors, parlons-en de cette gare définitive. L'article la décrit très bien, c'est vraiment la carte postale de l'architecture ferroviaire du 19e siècle.
On la visualise parfaitement.
D'un côté, le grand bâtiment en pierre pour les voyageurs, avec son pavillon central, l'horloge. Le côté noble, administratif quoi.
Oui.
Et de l'autre, à l'arrière, cette immense halle métallique, la verrière. L'antre des machines plein de fumée et de sifflets.
C'est une dualité très symbolique. La pierre, c'est l'ordre, l'accueil, le service public. Le métal, c'est la puissance industrielle, la révolution technique.
Et l'article donne des détails qui ancrent ça dans le réel, comme le château d'eau octogonal.
Un détail qui peut paraître anodin, mais qui est crucial. C'était la station-service de l'époque, indispensable pour abreuver ces locomotives à vapeur qui consommaient des quantités d'eau phénoménales.
D'accord.
Mais le véritable bouleversement, ce n'est pas le bâtiment en lui-même. C'est ce qu'il va créer tout autour.
C'est là qu'on entre vraiment dans la transformation de la ville.
Exactement. Si on prend un peu de recul, l'arrivée de la gare ne fait pas que desservir Rodez. Elle va littéralement enfanter un nouveau quartier.
Ah oui, oui.
Avant le train, la zone autour de Canac, c'était la campagne. Des champs, des fermes. Avec la gare, c'est le seul et unique pôle industriel de Rodez qui va naître à l'aube du XXe siècle. C'est un cas d'école.
Et concrètement, qu'est-ce qui s'installe ?
L'article est très précis là-dessus. On voit tout un écosystème se mettre en place. D'abord, une usine à gaz.
Une usine à gaz ?
C'est fondamental. Le charbon arrive massivement par train, il est transformé en gaz qui va alimenter l'éclairage public de toute la ville.
C'est une révolution pour la vie quotidienne, ça.
Mais bien sûr. Ça veut dire des rues plus sûres la nuit, une vie sociale, commerciale qui peut se prolonger après le coucher du soleil.
Le train amène littéralement la lumière en ville.
Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une usine électrique.
Oui, et elle est construite dans un but très précis, alimenter un projet de tramway électrique. Ce tramway a une vie assez courte, de 1902 à 1920. Mais c'est fascinant de voir l'effet du minot.
C'est vrai.
Le train national amène l'énergie qui permet de créer un transport public local. Puis on voit s'installer des industries plus diverses, une fonderie, une fabrique de filets de pêche et même une usine de pasteurisation du lait. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas que de la grosse industrie lourde. Le train connecte aussi l'agriculture locale à un marché national.
Tout à fait. Le lait des fermes de l'Aveyron, une fois pasteurisé, peut être envoyé vers les grandes villes sans tourner. C'est une ouverture économique sans précédent.
On sent vraiment en lisant l'article que, sans les rails, ce quartier, il n'aurait tout simplement jamais existé sous cette forme.
C'est le point clé. Chaque industrie listée dépendait de cette connexion ferroviaire comme d'un cordon ombilical pour importer les matières premières, pour exporter les produits finis. Le train, c'était la ligne de vie. Pour une ville comme Rodez, c'est une transformation économique radicale.
Alors, si on essaie de synthétiser, on est parti d'un article très documenté du Cartoclub Avironnais sur une simple ligne de chemin de fer.
Simple en apparence.
Simple en apparence, oui. Et ce fil d'acier nous a mené à des exploits d'ingénierie dignes d'un roman de Jules Verne, à l'histoire compliquée de l'arrivée du train en ville et surtout à la naissance d'un quartier entier, le poumon industriel de Rodez.
C'est une illustration parfaite.
Oui. À une échelle très concrète, ça montre comment une infrastructure ne fait pas que déplacer des gens, mais redéfinit une société.
Et le message plus large, c'est que l'infrastructure n'est jamais neutre. Ce n'est jamais juste du béton ou de l'acier. C'est un acte qui redessine les cartes, qui crée de la richesse à un endroit, qui change les habitudes, les métiers, les paysages.
C'est vrai.
L'article de Jean-Claude Vidal-Garic nous le montre de façon magistrale. Ce n'est pas de la nostalgie ferroviaire, c'est la démonstration éclatante de la puissance de l'aménagement du territoire. On comprend comment une décision prise à Paris se matérialise en usine et en emploi dans une ville de province.
C'est un éclairage passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que toute notre discussion et l'article se concentrent sur la création. La naissance de ce pôle, c'est une histoire de progrès, d'expansion.
Oui, tout est tourné vers l'avenir, la vapeur, l'acier. Et ça, ça invite presque naturellement à se poser une question qui dépasse le cadre de l'article. Qu'est-il advenu de ce quartier ?
Ah oui, bonne question.
Comment ce monde né du rail a-t-il survécu à son déclin progressif tout au long du XXe siècle face à la montée de l'automobile ?
On imagine que ça n'a pas été simple.
Et le bulletin lui-même, dans un autre article, nous offre une piste de réflexion géniale. Il raconte l'histoire d'un hôtelier de Rodez qui, après avoir eu son établissement près de la gare pour capter les voyageurs du train, décide de tout déménager.
Pour s'installer où ?
Au bord de la nouvelle route nationale. Le symbole est puissant. Il déplace son activité de l'infrastructure du 19e siècle vers celle du 20e. Mais ça, c'est une autre histoire qui mériterait sa propre analyse.